matin.
Laissez-vous tenter.
Avec Yves Calvi.
Dans un instant, nous accueillons nos invités Kad Merad et Malik Bentala. Ils forment un duo inédit et efficace dans la comédie Le Doudou qui sort en salle mercredi prochain. Et rendez-vous au 32-10 puisque nous vous offrirons des places pour aller découvrir ce film au cinéma. Nous nous intéresserons à notre soirée télévisée avec Isabelle Morini-Bosque et en particulier le retour sur Canal Plus de Homeland. Et puis nous irons en Bretagne à Landerneau dans le Finistère pour découvrir l'univers du sculpteur anglais Henry Moore. Ce sera avec Sophie Orange.
RTL Matin.
Laissez-vous tenter.
Kad Merad et Malik Bentala, bonjour. Quelle énergie de bon matin, c'est un bonheur.
La vôtre est tellement démesurée.
C'est donc ça.
Que vous avez éteint notre énergie à nous. Bonjour, bonjour Malik.
Bonjour.
Alors,
bonjour
soyez Malik, les bienvenus. À 6 jours de la sortie du film qui vous réunit, Le Doudou. Nous allons en parler avec Stéphane Boutsock. Mais d'abord, une question sur votre duo. C'est votre première rencontre ensemble au cinéma. Est-ce qu'on sait tout de suite que ça va marcher? J'ai envie de vous dire un couple. Je vous vois rire, excusez-moi, mais c'est plutôt bon signe.
Oui.
Il y a une chimie qui va fonctionner entre deux comédiens.
En tout cas, on aimerait bien que ça marche.
Voilà. Mais vous, qu'est-ce que vous avez ressenti, Malik Bentala?
De la peur, de l'appréhension?
Ah oui,
oui, beaucoup, parce que bon, c'est un monument quand même.
C'est mon moment.
C'est le moment Michel Drucker. Non, mais partager l'affiche avec Kad Merad, je me suis dit, est-ce que ça va passer déjà à l'écran? Et oui. Puis surtout, humainement. Et c'est mieux que dans un rêve, en fait. Ça s'est très bien passé. On se voit. Et d'ailleurs, on est en couple depuis un an.
C'est vrai.
Il est gentil.
Vous m'aviez pas dit ça.
À votre avis, regardez, je l'ai engueulé. Il arrive en retard, on peut le dire maintenant.
On peut le dire, oui. À la limite.
Je l'ai engueulé comme ma femme. Alors, on attendait, nous. Qui va faire le café?
Non,
c'est une blague. Attention, en ce moment.
Balance
ton cadre.
Alors, Stéphane.
Mais en tout cas, c'est un garçon charmant et très doué. Très doué.
À vous la lourde tâche de nous planter le décor de ce doudou, je le rappelle.
Le film raconte en fait le cauchemar vécu par des millions de parents au quotidien, la perte de la peluche préférée d'un enfant. C'est ce qui arrive à Michel, votre personnage, Kad, à la descente d'un avion. Sa fille égare son doudou dans l'aéroport, en bon papa. Michel dépose des avis de recherche sur lesquels tombe Sofiane, c'est vous, Malik, jeune homme qui travaille à l'aéroport. Mmh. Comme il y a une récompense à la clé, Sofiane prétend avoir retrouvé le doudou, mais son mensonge va faire long feu. Les deux hommes vont décider d'unir leurs efforts pour retrouver le précieux trésor. Début d'un road movie tendre, irrésistible aussi, peuplé de rencontres hallucinantes, on en reparlera.
Ah oui, ça y est.
Et de moments de découragement, extrait.
J'imagine si on s'arrête ici, j'ai pas mon argent.
Ah oui, t'imagines très bien, oui.
Vous y tenez à ce doudou, hein?
Tu sais ce que c'est qu'un doudou?
Un doudou, c'est une peluche qui sent mauvais, qu'est-ce que
non,
c'est?
Non, c'est pas qu'une peluche. C'est un objet transitionnel qui permet à un enfant en situation de stress affectif de se sentir en sécurité.
C'est quoi cette phrase là? On est sur Wikipédia.
Ma fille ne peut pas s'endormir sans son doudou.
La vraie force du doudou. Réalisé par Philippe Méchelin et Julien Hervé, ex-auteur des Guignols mais aussi scénariste des Tuches quand même, c'est d'allier des moments comiques incroyables. Je vous recommande Le maître chien de l'aéroport, incarné par David Salles, mais hallucinant.
C'est extraordinaire.
D'autres vraiment touchants. Film peuplé de gueules de cinoches, de vrais personnages. On y croise aussi Elise Moon, Guy Marchand et puis une actrice qui nous a quittés depuis le tournage, Isabelle Sadoyan, grande dame du théâtre. Première question, on va revenir au point de départ. Malik, vous étiez encore enfant il y a peu. Kad, vous êtes un tout petit peu plus âgé, père de famille.
Oui.
Est-ce que cette histoire a réveillé des traumatismes personnels quant à la perte d'un doudou?
Écoutez, moi je suis arrivé dans la génération jeux vidéo, donc on va dire que mes doudous c'était un petit peu mes consoles de jeux.
C'était les Game Boy.
C'était les PlayStation et tout ici qu'on dit.
Donc quand t'étais un bébé, t'avais pas une Game Boy quand même, rassure-moi. J'appelle tes parents tout de suite.
Et j'ai commencé très tôt à jouer. Mes parents, ça les arrangeait bien de me foutre devant la console de jeux vidéo.
C'est pas vrai.
Non, mais je n'ai malheureusement ou heureusement, en voyant le film, je n'ai jamais eu de véritable doudou.
Ah, c'est fou. Ouais. Alors, votre doudou à vous, Kad.
Moi, je savais que j'allais tomber sur cette question ce matin.
Oui, bien sûr.
Je pourrais inventer n'importe quoi, mais je pense que j'ai eu la girafe, Sophie, comme tout le monde.
Mais le doudou des enfants.
Ah, le doudou de...
Quand tu étais plus jeune, t'avais pas une arbalète À l'époque, non?
C'est Game of Thrones.
Il aime bien rappeler que je suis plus âgé que lui.
Et je crois qu'il
me voit
deux fois.
Mais moi, il me voit à l'époque de Thierry Lafont, c'est ça le problème.
Alors, il y a une question logistique, si vous me permettez. Le film a en grande partie été tourné à l'aéroport de Roissy, dans les couloirs et même sur le tarmac. Ça fait partie d'ailleurs du charme et de l'ambiance de ce film. J'imagine que c'est à la fois un terrain de jeu formidable, mais aussi un lieu très strict en matière de sécurité. Comment vous avez tourné? Comment ça se passait?
Déjà, moi, en tant que Brésilien, c'est très compliqué de rentrer dans un aéroport en ce moment.
Oui.
Mais plus sérieusement, c'est des histoires d'horaire. Nous, on arrivait parfois 2 heures, 3 heures avant, de manière à passer les portiques de sécurité, parce qu'il y a toute une équipe de tournage aussi à faire passer. Oui. Et parfois, on était toi, une bonne vingtaine.
Un peu plus.
Un peu plus, parfois.
Un peu plus. Ça, c'était juste mon équipe à moi. Mais on était bien 50, 80, même de personnes avec les camions et tout à faire rentrer. Pour rassurer les gens, c'est hyper surveillé. C'est pas parce que tu viens tous les jours qu'il y a du laxisme. Au contraire, je trouve que on avait même parfois, si on oubliait par exemple même nous
un badge,
n'importe quoi, on rentrait pas. C'est impossible.
Alors le film est aussi basé sur ce que les Américains appellent le buddy movie, autrement dit un film de potes, l'association de deux personnes qui vont être obligées de bosser ensemble alors que tout les oppose. Principe chez nous popularisé dans les films de Weber. On se souvient du tandem de Pardieu-Richard ou Bourville de Funès chez Gérard Houry. Vous aviez ça en tête quand il a fallu jouer tous les deux?
Quand on a Cad et moi-même, c'est sûr qu'il y a le beau gosse d'un côté et de l'autre côté la personne.
Bah en fait, j'aurais dû parler en premier.
La personne moins jeune, le beau gosse, le moins beau gosse.
Oui, je le laisse, je lui dis allez, c'est ton
le charismatique, le moins charismatique. Donc on joue sur cet antagonisme.
Il démarre.
Et c'est ce qui fait le charme de ça, c'est le futur, le passé. On est sur un espèce de
retourner d'où il vient, tout simplement.
D'antagonisme qui fonctionne.
Vous venez de faire un truc incroyable à la radio qui est normalement interdit. Vous parliez tous les deux, je ne sais pas, vos timbres passaient. C'est-à-dire que je peux reconstituer votre conversation.
C'est troublant. Il y en a qui ont une voix de fille et moi. Et il y a deux choses à la radio qui sont terribles, c'est ça et le blanc.
Oui, nous sommes d'accord.
J'ai déjà eu ça, le blanc, vous savez, le disque qui partait. Mais ça se fait plus maintenant. Sinon, on mettait des disques à l'époque. Avec...
Oui, vous avez d'autres souvenirs
juste le blanc
à nous raconter qui vont nous faire frémir.
Moi, je dis que je suis à la radio, je me sens bien à la radio. Parce que ça... Un univers que j'aime bien.
Il y a une chose aussi intéressante.
Non, je déconne,
doudou,
tout ça, c'est pas vrai.
C'est faux. Mais ce sont des fausses informations. C'est qu'au-delà de la vraie comédie et des situations qui sont parfois pas loin du burlesque, il y a aussi des thèmes un peu plus profonds. Il y a la paternité, il y a la transmission, il y a le passage à l'âge adulte, il y a l'engagement pour votre personnage.
Il y a l'Iran avec évidemment Donald Trump.
Oui,
bien sûr.
Et la Corée du Nord.
Il y a la Corée du Nord.
Et puis les chiens femelles qui se prennent.
Les chiens femelles.
Qui se prennent pour des chiens femelles.
Voilà, il y a tout ça. Il y a tous les thèmes.
Mais c'est vrai que c'est intéressant dans une comédie qu'on puisse aussi aborder ça.
C'est vrai.
Stéphane, il est bien.
Hein. Ah oui, mais
non, Stéphane,
il est à la boutique.
Il est super, mais il a raison. Moi, c'est vraiment, j'ai adoré le scénario parce que ça me permettait d'évoluer aussi en tant qu'acteur. Je joue un rôle où je me retrouve dans le rôle de Michel. C'est un espèce d'effet miroir où je vais grandir d'un coup. Il dit ça d'ailleurs, le personnage de Cad. Il dit des fois dans la vie, on grandit d'un coup. Et c'est ce qui va se passer pour le personnage de Sofiane. C'est que je démarre en étant un petit peu immature dans le scénario, en étant un petit peu.
En effet.
Voilà. Un petit peu joueur,
follet,
un petit peu taquin,
quoi,
un peu follet, ouais.
Voilà.
Et ça se termine en étant un peu plus mature, on va dire.
Ouais. Et à la fin, je peux même vous dire qu'il nous émeut vraiment profondément.
Voilà. Ah ben, alors justement, Cadmerade, votre personnage est un père de famille qui s'entête donc pour retrouver le doudou de sa fille. Alors, il n'est pas que drôle, même parfois un peu sombre. Je parle de votre personnage. Hein. Oui. J'ai l'impression que c'est un juste qui vous plaît de plus en plus et dans lequel les réalisateurs envisagent facilement de vous voir, vous aussi, de plus en plus. Est-ce que c'est ce qu'on pourrait appeler l'effet baron noir?
Sans doute, oui, sans doute. Et puis surtout, c'est parce que je crois que je grandis, je vieillis, je vieillis dans le bon sens du terme. Hein.
Oui, oui.
De plus en plus, je vais m'éloigner des rôles de jeune premier, des rôles de jeune père pour devenir bientôt un grand-père ou je ne sais pas. Parce que mine de rien, ça avance. Et donc, c'est des rôles plus posés peut-être, ce qui n'empêche pas la comédie, puisque j'ai retrouvé Olivier dans un rôle extrêmement burlesque d'un gigolo. Donc, vous voyez. Mais de plus en plus, on me propose des rôles, on va dire, un peu plus raisonnables.
Avec une
plus
densité raisonnable. Et parfois, avec... le fait que vous assumiez aussi d'être un comédien qui joue des rôles dramatiques.
Ah non, mais et c'est vrai que depuis Baron Noir, on m'en parle beaucoup, donc évidemment,
c'est
je
normal.
Peux pas... C'est vrai que même Baron Noir m'a permis de grandir aussi un peu, de me connaître un peu plus sous cet angle-là, en fait. Parce que moi, j'avais toujours peur de pas faire rire, en fait. C'est terrible pour un comique de pas faire rire. Et quand vous êtes au cinéma et que vous avez des dialogues pas forcément drôles, mais que vous devez simplement mettre en valeur le comique, eh ben c'est aussi drôle. Vous voyez ce que je veux dire? C'est l'effet du clown blanc et de l'Auguste en fait.
Vous, bien parlé. Malik, on va employer les grandes expressions, les grands mots. Est-ce qu'on peut dire que vous êtes un petit peu à un moment clé de votre parcours? Il y a le doudou qui sort donc mercredi. Il y a le carton de Taxi 5, on rappelle quand même largement au-delà des 3,5 millions d'entrées en France, ça cartonne un peu partout dans le monde. Il y a votre deuxième One Man Show qui poursuit sa tournée. Est-ce que Taxi 6, tiens, en passage, c'est dans les tuyaux, si je puis dire?
Ben, vous savez, c'est marrant parce qu'on en parle. On y réfléchit, on en parle, d'autant plus que le film a une super vie à l'étranger. Donc, c'est des choses où on se rend compte quand même qu'on est des privilégiés parce que aujourd'hui, faire des entrées au cinéma, c'est très compliqué avec l'arrivée de Netflix. Des fois, moi le premier, j'ai juste envie d'être dans mon canapé et de pas bouger. Donc, avoir la chance et l'opportunité de redémarrer une franchise avec autant d'entrées, on se dit qu'on est quand même des privilégiés et qu'on a envie d'y regoûter quand même. Donc on y pense avec Franck. Et c'est un moment clé, oui, c'est sûr que c'est un moment charnière. Et Le tout, c'est de ne pas se poser de questions et de vivre le moment. Parce qu'on a tendance, moi en particulier, à me projeter et à ne pas profiter de ce qui m'arrive. Et ma bonne résolution que j'ai prise dans les Cévennes avec Frédéric Lopez, c'est de, c'est de profiter de l'instant présent.
En tout cas, on est heureux de partager ce moment avec vous dans vos vies de comédien, tel qu'on l'entend très clairement ce matin sur l'antenne d'RTL. On va maintenant offrir des places à nos auditeurs pour aller découvrir mercredi prochain, nous serons le 20 juin, votre film Le Doudou au cinéma. Et pour gagner, il faut répondre à cette question que vous pose Stéphane.
Alors ce fameux doudou,
oui,
perdu par la fille de 4 dans l'aéroport,
oui,
est-ce que c'est une peluche? Est-ce que c'est une poupée?
Réponse au 3210. Merci infiniment à vous, Malik Bentala, Kad Merad, d'être passé par les
Cévennes
ce matin.
Merci Stéphane.
Kad, vous savez que vous êtes ici chez vous, puisque le 19 mars dernier, vous aviez accepté en compagnie de Nolwenn Leroy d'être le parrain des nouveaux locaux d'RTL ici à Neuilly. Et vous nous aviez offert à cette occasion une visite très spéciale de la rédaction.
On peut le dire,
que je n'ai pas oublié.
Quand vous allez fermer, je pourrais faire l'état des lieux. De manière à boucler la boucle.
Nous avons pris rendez-vous, on aura bouclé la boucle. Le Doudou sort donc mercredi prochain au cinéma. Très belle journée à vous deux.
Merci aussi.
Merci à vous.
Au revoir.
Et vous savez quoi, après le doudou, et ben on va parler télévision. Ce sera avec Isabelle Morini-Bosse dans quelques instants et notamment le grand retour de Homeland sur Canal+.
RTL, laissez-vous tenter, 9h12. RTL Matin,
laissez-vous tenter.
Yves Calvi jusqu'à 9h30.
Nous allons faire un point sur nos audiences de la veille avec Médiamétrie et Isabelle Morini-Bosque.
Eh bien, Grey's Anatomy garde tous ses fidèles. 4 100 000 téléspectateurs et 18% du public sur la une. Mais la vraie surprise, c'est le documentaire sur Brigitte Macron qui, sur la 3, a tout de même rassemblé 3 200 000 téléspectateurs. C'est un fort score. 14% du public était sur la 3. Et donc, en troisième position, ben, on a la rediff de la tueuse Caméléon avec Catherine Froh sur la 2. Et petite déception quand même pour Qu'est-ce qu'on attend pour être heureux, le feuilleton avec Laurent Dodge, qui est suivi par moins de 2 millions de téléspectateurs sur M6. Et côté TNT, c'est le Burger Quiz inoxydable qui est en tête sur TMC, 1 410 000 téléspectateurs.
On passe à notre soirée télévisée de ce soir. Alors on signale évidemment Cauchemar en cuisine sur M6.
Oui, dont l'audience cesse de grimper et c'est mérité.
Et on signale aussi Envoyé spécial dont l'audience ne grimpe pas sur la 2.
Non, on ne peut pas dire et c'est injuste parce qu'ils ont fait une excellente année côté intérêt des sujets. Ce soir, il y a par exemple une très bonne enquête sur le compteur électrique Verfluo Linky, 19 cm sur 12, un boîtier que la filiale d'EDF Enedis doit installer dans 35 millions de foyers d'ici 2021. 11 millions le sont déjà, sans obligation d'accord des particuliers. Des particuliers nombreux à faire de la résistance, d'autant que leur facture explose, dit-il, et que les plombs sautent souvent à tous les sens du terme. Le phénomène s'intensifie tellement que les poseurs de compteurs ont reçu un fascicule intitulé « Comment faire face aux refus sur le terrain ?» Mais la plus grande crainte des usagers et de la CNIL, c'est le contrôle à distance par Enedis et surtout la collecte des données à compter du 1er juillet. Le compteur les communiquera toutes les heures au lieu d'une fois par jour, avec possibilité technique toutes les 10 minutes. Écoutez ces deux particuliers lors d'une rencontre Enedis citoyen à Lyon.
Je voudrais savoir si les compteurs Linky sont capables de relever des données un peu en continu, du type à quelle heure je me lève, à quelle heure je me couche, combien de personnes il y a dans mon foyer. Ça pose des vraies questions au niveau de nos vies privées quand même.
Le vrai motif de l'installation de Linky, c'est bien de pouvoir récolter des données sur notre façon de vivre dans nos maisons. Ils ont une équipe interne qui s'appelle la Fabrique Numérique de Data Scientists qui travaille à nous cibler pour nous vendre ensuite des produits, des services et créer de nouveaux besoins.
Voilà, par exemple, si c'est allumé la nuit, c'est peut-être que vous êtes insomniaque, d'où le risque, ou plutôt la crainte, que votre mutuelle vous fasse payer plus cher vos mensualités. La parole est également donnée à la direction d'Enedis, qui rappelle qu'il y a cryptage des données. La Cour des comptes, qui a justement le compteur dans le collimateur, signale que Enedis devrait au final réaliser 500 millions d'euros de bénéfices. Il y a de l'électricité dans l'air.
Alors, place également aux fictions, car qui dit jeudi dit feuilleton, n'est-ce pas?
Exactement.
Il n'y a plus que vous et moi à dire feuilleton, vous avez remarqué?
Oui, parce que c'est un vrai feuilleton avec une suite d'épisodes en épisode.
J'étais petit garçon, alors, on appelait ça des feuilletons.
Exactement. Si d'abord il y a d'abord un chef-d'œuvre sur Arte, ça s'appelle Three Girls, trois épisodes diffusés à la suite et montrant comment trois lycéennes ayant pris leurs habitudes dans un restaurant pakistanais de Manchester vont devenir les victimes d'un trafic sexuel de très grande ampleur. C'est une histoire vraie. Et ce drame anglais multiprimé, 5 BAFTA, l'équivalent des Césars, est à voir, mais vraiment impérativement, au moins en replay, car il faut tout de même avoir un gros moral au départ pour en conserver un petit à l'arrivée.
J'ai bien compris le message. Alors, tout cela est face à la saison 7 de Homeland sur Canal+.
Qui est toujours parfaitement réussi et avec toujours Claire Danes dans le rôle de Carrie Madson, ex-agent bipolaire, cette fois en lutte.
Toujours très bipolaire.
Très bipolaire. Et deux sourires en sur toute la série quasiment. Cette fois, elle est en lutte contre la présidente des États-Unis qui l'a virée et qui a fait arrêter plus de 200 collaborateurs suite à l'attentat dont elle a été victime. Vous êtes d'accord? Vous l'avez déjà
absolument
vu?
Absolument, oui.
Voilà.
Oui.
Carrie part en croisade et en sucette, mais c'est comme ça qu'on l'aime. Et après le premier épisode, attention, ça monte vraiment en tension, justement.
C'est assez rock'n'roll.
Très excellente série. Au bout de 7 saisons, ils réussissent à se renouveler. Et pourtant, moi, j'ai perdu mon rouquin.
C'est... Bah oui, mais vous l'avez dans Billions, votre rouquin.
C'est
alors,
vrai.
C'est donc le début, alors que sur TF1, c'est en fait la fin d'Alice Nevers.
Fin de la saison 7, car oui, ce sera bientôt la 17e saison de cette série. Alors pour le coup, c'est un vrai feuilleton de cette série MacGyver qui se maintient après 1000 changements. De format, de jours de diffusion, de personnages secondaires, d'actrice principale, Florence Pernel ayant été remplacée par Marine Delterme, de comédiens. 8 garçons se sont succédés avant Jean-Michel Tignivelli depuis 2007. C'est celui qui a le regard bleu lagon. Or, c'est toujours suivi par près de 6 millions de fidèles, 7 avec le replay. Cette saison, il a beaucoup été question de mariage. Et je vais être people ce matin, en conclusion, en leur demandant si eux, ils ont été ou sont mariés séparément, bien sûr.
Oui, ça s'est très très bien passé. On a divorcé la veille du mariage. Et ça m'a coûté un bras.
Compliqué. C'est compliqué avec Jean-Michel. Hein.
Merci.
Moi, je suis mariée. On m'a demandé plusieurs fois en mariage. Mais en fait, je m'en souviens qu'une fois, c'est celle où j'ai dit oui. J'étais très émue. Je trouvais ça fou.
C'était très joli. Très belle cérémonie.
Vous y étiez, vous ?
Bien sûr.
J'avais des chaussures trop petites.
J'avais des chaussures trop petites ce jour-là,
ça
c'est vrai.
Marcher.
Je pouvais pas marcher. Je citerai pas la marque, c'était une catastrophe. Donc j'ai terminé en chaussettes dans la rue, dans le 6e arrondissement.
Rien à ajouter sur la cérémonie ?
Non, mon mari a failli la rater. Parce qu'en fait, il faisait un documentaire sur Jacques Chancel. Ils étaient au fin fond du Vietnam et Jacques, très farceur, paix à son âme, juste avant de prendre l'avion, avait dit : écoute, je dois t'emmener dans un endroit incroyable à 3/4 d'heure de l'aéroport pour voir un truc, une sec, nanana. Et il faisait exprès de jouer avec ses nerfs. Ils ont failli rater l'avion à 5 minutes. Il dit : tu vois, t'as failli rater ton mariage. Mais il l'a pas raté.
Je rappelle que Marine Delterme est mariée au dramaturge Florian Zeller et qu'elle a été le témoin de Carla Bruni quand Carla Bruni s'est unie à Nicolas Sarkozy. Elle est donc aussi à la noce.
On part en Bretagne dans un instant du côté de Landerneau, n'est-ce pas ?
Très belle bourgade.
Avec Sophie Orange. Ah.
Rappelez à Steven Belloc.
Voilà. RTL, laissez-vous tenter, 9h21.
RTL Matin,
laissez-vous tenter
avec Yves Calvi.
Bonjour Sophie Orange.
Bonjour Yves, bonjour à tous.
Vous nous faites découvrir ce matin un sculpteur anglais connu dans le monde entier, mais pas très bien en France en fait. Il s'agit d'Henri Moore. C'est une grande rétrospective qui lui est consacrée en Bretagne au Fonds pour la culture Hélène et Édouard Leclerc de Landerneau.
Un fonds installé, pour l'anecdote, dans l'enceinte d'un ancien couvent des Capucins du XVIIe siècle. Les parents de Michel-Édouard Leclerc, actuel patron du groupe Leclerc, y avaient installé ici leur premier supermarché dans les années 60.
Et depuis... même une épicerie avant.
Oui, exactement. Épicerie. Et Hélène, d'ailleurs, Leclerc est toujours bon pied, bon oeil pour présenter l'exposition de cette année dans cet espace consacré à l'art depuis 2011. En vedette, donc, Henri Moore, sculpteur anglais qui a traversé le siècle en laissant derrière lui des milliers de dessins et de sculptures. Sa passion, la figure humaine sous toutes ses formes, des sculptures généreuses, voluptueuses, parfois très épurées. Henri Moore est un sculpteur inclassable, selon Christian Allendette, co-commissaire de l'exposition.
Il a énormément observé les sculpteurs français, donc il a énormément observé Rodin. Il rencontre Giacometti, Dali, Zadkine, Brancusi, mais il ne va jamais vraiment adhérer à aucun groupe. C'est vraiment un artiste qui se situe entre l'abstraction et la figuration, dans une recherche qui est beaucoup plus personnelle. Un artiste qui a refusé de choisir un camp.
120 sculptures, 80 dessins superbement présentés à Landerneau. Ce qui est intéressant, effectivement, c'est qu'Henri Moore a créé son propre langage avec, on pourrait dire, des œuvres percées, comme cette figure surréaliste prêtée par un collectionneur privé, l'une des pépites de cette rétrospective, des sculptures que l'œil traverse et du coup le visiteur, en tournant autour de la sculpture, la voit différemment, les formes changent.
Quand on s'éloigne, on reconnaît une figure, donc sur certaines sculptures on voit très bien, on reconnaît une tête, on reconnaît une jambe, on reconnaît un bras, on reconnaît une figure allongée, une femme allongée, et dès qu'on s'approche, on est dans quelque chose de beaucoup plus abstrait, au cœur d'un paysage avec des rochers, qui rappellent des paysages de Bretagne ou de Grande-Bretagne.
Pour le dire autrement, le penseur de Rodin, qu'on soit près ou loin, c'est toujours un penseur, on
Nous
est d'accord.
D'accord oui.
L'homme qui marche de Giacometti, qu'on le voit de près ou de loin, c'est toujours
c'est l'homme qui marche.
L'homme qui marche. Sauf que les sculptures d'Henri Moore, non, et c'est ça qui est passionnant, il y a en fait plusieurs œuvres en une.
Alors, ce qui est frappant aussi dans son travail, ce sont les corps allongés.
Il en a fait toute sa vie. C'est l'une de ses marques de fabrique. Vers la fin de sa vie, Henri Moore, mort en 1986, les a relevés. Les sculptures se sont relevées telles des totems de la culture africaine. Moore, très inspiré, fasciné même par les civilisations extra-occidentales qu'il a découvertes au British Museum à Londres, notamment la culture mexicaine. Vous verrez aussi dans cette exposition plusieurs superbes mères à l'enfant, mon obsession, disait l'artiste qu'on entend ici parler. Plusieurs centaines de dessins et de sculptures. Et également des formes extérieures qui enveloppent des formes intérieures avec une puissance inouïe. Et bien sûr, des sculptures monumentales. Trois sont d'ailleurs exposées hors les murs. Deux à Landerneau, femme gigantesque le long des quais, et une arche devant la mairie. Et une autre sculpture monumentale à Brest, devant les ateliers des Capucins. On a l'impression qu'elles ont toujours été installées ici. C'est ça qui est étonnant. Un travail très varié, salué par l'un des meilleurs connaisseurs de Henri Moore en France, Jean-Louis Prat.
La pierre, le marbre encore, le bois, il va donner différentes couleurs également à ces patines que l'on ne connaissait pas. En général, c'est plutôt des patines brunes ou vertes. Il donne comme ça l'envie de tourner encore autour et de découvrir autre chose, presque découvrir l'intérieur du corps. Et là, il a une originalité, une création qui nous révèle un monde que nous ne connaissions pas et qui nous fait dire qu'on est face à un des grands génies de tous les temps.
Génie d'accord, mais pourquoi Henri Moore est-il si peu connu en France ?
Sans doute parce qu'il ne s'est jamais installé à Paris comme d'autres artistes étrangers, Picasso, Brancusi, Zadkine. Et puis c'est vrai qu'aussi Rodin et Giacometti ont pris et prennent encore beaucoup de place. Mais savez-vous tout de même qu'une œuvre d'Henri Moore trône à Paris ? Vous savez où ?
Dans le jardin des Tuileries.
Bravo, vous êtes fort. Oui. Depuis 2000, une figure allongée, une autre, silhouette au repos, a été installée devant l'UNESCO. Là, c'était une commande de 1958. Henri Moore, artiste prolixe qui mérite d'être connu, à découvrir ou redécouvrir, au fond, Hélène et Édouard Leclerc à Landerneau.
Merci beaucoup pour ce merveilleux séjour à Landerneau et dans les œuvres d'Henri Moore. Dans quelques instants, nous vous faisons gagner
des places
pour aller voir le doudou. Voilà. Allez, à tout de suite, Ménoudou.
RTL Matin,
laissez-vous tenter
avec Yves Calvi.
Bon, le fameux doudou perdu par la fille de 4 dans l'aéroport, c'est une peluche ou une poupée ?
C'est une peluche.
Ben voilà, vous nous avez appelé au 3210 et vous avez gagné des places pour aller découvrir le film à partir du 20 juin dans toutes les salles de cinéma. Merci à toute l'équipe et bienvenue à Julien Courbet.
Eh ben bienvenue à Julien Courbet qui est au taquet avec cette Coupe du Monde là. Ça y est, on y est là maintenant, mon Yves. Vous êtes dans les réservistes aussi, vous pouvez être appelé à n'importe quel moment.
Mais oui. Je sais pas si c'est raisonnable. Hein.
Pour Mbappé, quand même Mbappé s'est blessé, on s'est dit tu vas voir, il va appeler Calvi.
Ah oui.
Bon, heureusement dans un éclair de génie, il ne l'a pas fait, mais il pourrait vous appeler à n'importe quel moment.
Et vous aussi, vous occupez une place dans l'équipe en tant que remplaçant ?
Bien sûr, moi je suis là, je suis le masseur moi de l'équipe. Je masse les femmes des joueurs pendant que eux s'entraînent.
Parce
que
ah oui, je vois bien, bah, bien sûr.
Ils n'ont vraiment rien à faire.
Bon, bah, c'est parfait.
Je vous souhaite une bonne journée.
Bon massage et à demain.
Merci.